l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, ils se racontent des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restime de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 13 mars 2013, geste esthétique, geste de savoir. En quoi nos expériences esthétiques, au cinéma, devant la télévision, dans un théâtre, un musée, à la lecture d'un livre, sont-elles une affaire de gestes? En quoi ces gestes contribuent-ils à développer nos savoirs, nos sensibilités, nos puissances d'agir? Toutes ces questions trouvent réponse à la lumière d'une thèse d'ordre anthropologique. Si la modernité industrielle a entraîné l'atrophie des gestes physiques développés par les artisans au cours des siècles antérieurs, les développements médiatiques connus par le XXe et le XXIe siècle appellent de nouveaux gestes mentaux, affectifs et relationnels, et les expériences artistiques ont constitué au cours des trois derniers siècles un laboratoire privilégié pour le développement de tels gestes. Yves Citon, professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Grenoble III, membre de l'UMR Lire, répondra à cette question dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Voilà, merci. Donc, l'Agora des Savoirs donc, accueille ce soir Yves Citon. Donc, Yves Citon est professeur de littérature à Grenoble. Alors, dans les petites notices biographie qu'on trouve sur le net, il est dit effectivement que tu es spécialiste de l'imaginaire politique de la modernité, donc spécialiste du XVIIIe siècle, mais à chaque fois dans ces petites notices, on insiste sur le fait que tu transposes rapidement tes questionnements, tes interrogations sur le terrain contemporain. Et donc effectivement, est fortement souligné cette tension, cette interaction entre effectivement ces deux types de recherches, cette interaction au sein même de ton travail de recherche. Ce que le lecteur, lui, va découvrir, d'une certaine manière, c'est une double invitation. Une invitation, effectivement, à explorer des textes, des auteurs qui ne sont pas nécessairement familiers. Certains peuvent être un petit peu improbables. Je pense à ton récent livre sur Zazirocratie, et je le lis, où tu es allé dénicher un texte de 1761. Tu vas explorer ce livre, cet auteur, pour revenir vers nous et pour réinterroger les conditions de notre existence, la question de la croissance, etc. Donc il me semble que ce livre est assez emblématique, effectivement, du mouvement intellectuel dans lequel tu nous engages. Je pense que ce détour par l'histoire auquel tu nous invites permet effectivement de construire des centres de perspective qu'on peut ensuite transposer, réengager dans la situation contemporaine. Et à cette occasion, je pense que tu montres bien c'est à quel point les études littéraires, aujourd'hui, nous deviennent indispensables. Peut-être que la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une condition effectivement d'enfermement, de sentiment de blocage, et l'importance effectivement de pouvoir faire venir du contrepoint, du détournement, du déplacement. Et effectivement, ce double mouvement, ce double geste présent dans tes travaux est important de ce point de vue. Et donc, je crois qu'il y a à la fois une réhabilitation, entre guillemets, des études de littéraires, et on sait qu'on est dans un contexte politique parfois qui est fortement en défiance ou en déconsidération, et puis un réengagement de cette nécessité de lire la situation contemporaine au-delà et indépendamment effectivement de ce que nous alimente en permanence les médias ou une forme de politique tout à fait sclérosée. Ce que je voudrais peut-être mettre en valeur rapidement en introduction de ta conférence, c'est effectivement deux axes forts de tes recherches. Les études littéraires qui te permettent effectivement de mettre en valeur l'importance du travail d'interprétation, ce travail d'interprétation qui nous devient précieux dans le contexte politique d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, les systèmes médiatiques, les systèmes organisationnels nous adressent en permanence de l'information, nous adressent en permanence de la connaissance unifiée, compacifiée, etc. Et il est extrêmement important, effectivement, de réengager subjectivement hein, de l'interprétation. Donc je pense que là, il y a un apport important de tes travaux, et en particulier dans le cadre de ton ouvrage « L'avenir des humanités, économie de la connaissance ou culture des interprétations ». Un deuxième axe qui me semble fort dans tes travaux, toujours en appui hein, de ces études littéraires, c'est remettre la question du récit aussi aujourd'hui. On sait à quel point la gauche est orpheline de ces grands récits émancipateurs, et pour autant, il ne semble pas nécessaire d'abandonner cette question du récit, et tu le montres bien. Et donc de voir comment, dans ce contexte d'hypermédiatisation, se réapproprier cette puissance pour essayer effectivement d'en faire un instrument d'émancipation. C'est au cœur effectivement de ton livre « Mythocratie, storytelling et imaginaire de gauche ». Donc pour faire court, je pense que ce qu'on pourrait dire qui caractériserait bien tes travaux, c'est ce souci effectivement de réhumaniser notre période contemporaine. Et le faire, c'est effectivement le faire avec des déplacements, être en capacité effectivement de déborder, être en capacité à être dans l'indiscipline. Alors l'indiscipline, qui est un mot qui t'est cher, hein, qui est assez présent dans tes travaux, et qu'on peut recevoir de deux façons. Recevoir au sens universitaire, institutionnel, la nécessité effectivement de déborder les frontières, les limites disciplinaires, et effectivement de ce corpus d'études littéraires, tu te déplaces vers le politique, la philosophie, la sociologie, l'économie. Mais indiscipliné au sens où, j'ai envie de dire, rien ne t'arrête, rien ne fait obstacle à ce souci de transposer, de déplacer, d'oser effectivement des rapprochements historiques un peu intempestifs, un peu inattendus. Et donc cet effort de réhumaniser, cette capacité par l'effet de distance à réinterroger le présent est tout à fait présent d'une manière très féconde et stimulante dans un de tes tout derniers ouvrages, « Renverser l'insoutenable ». Tu nous proposes effectivement de ne pas rester piégé dans ce fatalisme, de ne pas rester piégé effectivement dans cette surenchère un peu de souffrance par rapport à la situation contemporaine, et par ces détours, par ces contournements, de réussir à porter un regard peut-être un petit peu différent sur la période contemporaine, de réussir à le réhumaniser. Et puis, j'ai envie de dire, dernier geste, et qui constitue le titre de ton dernier livre, hein, « Geste d'humanité », et qui va être au cœur hein, de la conférence de ce soir, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, hein, c'est le moment de te passer la main. Donc merci de ta présence, et puis... merci pour cette conférence et à tout à l'heure.
Merci beaucoup à Pascal Nicolas Lestrade d'avoir prononcé ces paroles très, très sympathiques. Je ne suis pas sûr de les mériter, mais j'espère que vous connaissez le bonheur que vous avez d'avoir un sociologue, un penseur, un activiste aussi important que Pascal sur la place de Montpellier. C'est une des personnes que j'ai lues depuis pas mal de temps et qui m'inspire le plus parmi les penseurs contemporain. Donc merci à Pascal, merci à vous d'être venu, merci à Agora de m'avoir invité. Tu parlais d'indiscipline tout à l'heure. Le premier décalage indisciplinaire que je vais vous proposer, c'est de mettre quelque chose de sonore derrière ma parole. Donc si ça vous dérange, ça va être un petit peu du style de ce que vous écoutez maintenant ou ce que vous entendez maintenant. Si ça vous dérange trop, n'hésitez pas à vous manifester et puis on pourra peut-être baisser le niveau, voire l'arrêter. J'essaierai de vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc mon propos d'aujourd'hui, ça ne va pas vraiment faire référence, pas du tout au XVIIIe siècle, pas vraiment à la littérature de façon spécifique, mais plutôt à des questions d'art, d'esthétique, de ce que ça nous fait à nous, qui ne sommes pas écrivains, qui ne sommes pas forcément danseurs ou musiciens, ce que ça nous fait que d'avoir des expériences esthétiques. Et pour ceci, la notion de geste me semble très importante. Donc je vais vous parler à peu près une heure. Et tout mon propos va essayer de partager une intuition qui me semble porteuse, à savoir que la notion de geste est importante à explorer, à défendre d'un point de vue alors esthétique, mais aussi bien d'un point de vue peut-être éthique et politique. Et je vais faire ça en trois parties. Une première partie où je vais opposer geste et programme. Donc je vais essayer de vous amener à concevoir à la fois une solidarité, mais aussi une sorte d'opposition entre d'un côté les gestes, d'un autre côté les programmes. Ça va nous prendre une dizaine de minutes. ou peut-être un petit peu plus. Ensuite, une exploration d'une définition possible de ce qu'on pourrait faire de la notion de geste. Et là, vous allez voir, je vais vous proposer des tensions. Je ne vais pas vous donner une définition bonne pour toujours, mais une série de 6 tensions, de polarités, entre lesquelles la notion de geste nous permet de bouger de façon que j'espère vous trouverez intéressante. Et la dernière partie du propos, ça sera de raisonner plutôt en termes de savoir. Qu'est-ce que peuvent être des disciplines qui s'intéressent aux gestes, ou alors les humanités, sciences humaines, sciences sociales, littérature, histoire de l'art, etc., en quoi elles sont importantes dans nos pensées, dans nos vies contemporaines, et en quoi la notion de geste est centrale pour elles. Et donc ce que vous entendez avec ou derrière moi, c'est un guitariste malheureusement décédé il y a quelques années, qui s'appelait Derek Bailey, qui est donc guitare solo, qui a théorisé et pratiqué une forme d'improvisation à la guitare qu'il appelait une improvisation non idiomatique. Et donc ce qu'il essaye de faire dans ce que vous entendez derrière moi, c'est lui qui est par ailleurs un virtuose de la guitare, il improvise, mais il essaye d'improviser en ne retombant pas dans un langage déjà constitué, comme peut être la guitare jazz manouche, comme peut être la guitare rock, comme peut être tout ceci. Il essaye... voilà, de se surprendre lui-même avec ce qu'on peut faire avec une guitare. Et donc c'est une série d'extraits de différents albums dont vous avez les couvertures ici. Et le tout premier me semble très intéressant, celui qui s'appelle Carpal Tunnel, c'est le tunnel carpien, parce qu'il a eu une opération du tunnel carpien, ce qui est problématique pour un guitariste, et il s'est enregistré 3 semaines après l'opération, 5 semaines après l'opération, 8 semaines après l'opération, pour essayer de rendre compte de cette difficulté du geste physique qui est de tenir une guitare, d'essayer de coincer des cordes, alors qu'on a sa main de virtuose handicapée. Et donc ça va circuler un petit peu à l'arrière de ma parole, et l'idée c'est que moi j'essaye de vous donner du discours sur les gestes, je gesticule aussi moi-même comme vous le voyez, mais je vais essayer de vous donner des mots, quelques citations, quelques mots, concepts, c'est peut-être un grand mot, pour essayer de comprendre l'importance des gestes. Et pourquoi je vous passe ceci derrière, c'est que vous faites vous-même l'expérience de geste esthétique en entendant ce que Derek Bailey essaye de faire avec ses différentes guitares. Donc première partie, geste et programme. Alors, un programme, je vais le prendre dans une définition très, très large et peut-être étymologique, un comportement qui est écrit à l'avance, quelque chose qui est écrit à l'avance. Alors, les petites illustrations que je vous propose, c'est des robots, des machines, on les a programmés et ça fait des choses qu'on a programmées, des microchips ou des logiciels. Dans tous ces cas, on a des comportements que quelqu'un a commencé par écrire, puis qui se réalisent dans la réalité, plus ou moins bien, plus ou moins parfaitement. Alors, j'ai envie de définir d'une première façon très, très vague le geste, par une opposition à la notion de programme. Donc serait geste un comportement d'abord en tant qu'il excède les programmations dont il résulte. Et là, je vais le préciser tout de suite. À la fois, je vous propose d'opposer geste et programmation. À la fois, dans cette première définition, vous voyez que nos gestes sont issus de programmation. Par exemple, Derek Bailey que vous entendez derrière moi, c'est pas simplement quelqu'un qui un jour découvre une guitare et regarde ce qu'on peut faire avec. Il a un entraînement. Il s'est discipliné lui-même à maîtriser des gestes de guitare qui ne sont pas fondamentalement les siens. Il a fait de la guitare jazz, il a fait toute une série, il a fait du rock, il a appris, il a internalisé des gestes qui ont été explicitement ou implicitement programmés par autrui. Et à partir de cette programmation, il a eu un maître, un enseignant de guitare qui lui a donné des exercices à faire. À partir de cette programmation, il essaye de développer de l'improvisation. Donc première dimension du geste qui me semble importante, c'est quelque chose qui excède, non pas qui nie, mais qui excède un cadre de programmation qui pourtant existe. Deuxième grande dimension du geste que j'ai envie de souligner, c'est un comportement en tant qu'il influence une subjectivité qui le perçoit. Et ça, ça correspond peut-être mieux à la différence qu'on peut faire habituellement entre un acte ou un geste. Nous serions des gens de la réalité qui agissons, nous prenons des trames, nous parlons les uns aux autres pour de vrai, et il y aurait des acteurs, des histrions, des gens dans le domaine esthétique justement qui ne feraient que les gestes. Donc dans la notion de geste, en tant qu'elle s'oppose à l'acte, même si tout à l'heure je vais essayer de nouveau de montrer que c'est une continuité plutôt qu'une opposition, il y a l'idée que c'est fait pour montrer, c'est fait pour que ça se voit. Donc derrière le geste, il y a la conscience d'une subjectivité qui est en train de nous observer et qui va interpréter ce que nous faisons comme geste. Et donc l'exemple que je vous donne, c'est Derek Bailey, musicien, on aurait pu prendre Cecil Taylor ou plus ou moins n'importe quel autre musicien. Je vous propose deux postulats, des choses que je pose a priori, avec lesquelles vous serez d'accord ou vous ne serez pas d'accord, qui me semblent utiles pour cadrer l'intérêt de la notion de geste. Premier postulat, nous sommes humains grâce au programme. Les programmes, on a vu tout à l'heure que ça peut être des machines, des outils, des logiciels ou des formatages éducatifs, mais nous sommes humains grâce aux programmes qui nous ont produits. Là, je pense à un paléontologue, anthropologue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle André Leroy-Lagourhan, qui a fait un très beau livre, qui s'appelait Le geste et la parole. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre justement que l'évolution de l'humanité, ça a consisté à extérioriser des sortes de programmes. Mais qu'on ne peut pas du tout dire qu'il y a l'homme qui existe et les machines qui l'aliènent. Les hommes et les femmes que vous êtes sont tels que vous êtes parce qu'il y a des télévisions, aujourd'hui des ordinateurs, des langages, des grammaires, toutes ces choses qui sont écrites et à l'intérieur desquelles nous agissons, tous ces programmes, ce sont eux qui nous rendent humains. Donc premier point, on ne va pas opposer, contrairement à ce que je vous ai dit de façon un petit peu sommaire tout à l'heure, les programmes aux gestes ou les humains aux machines, parce que nous sommes humains en tant que nous sommes produits par des programmations, premier point. Deuxième point, deuxième postulat que je vous propose, nous devenons plus humains grâce aux gestes que nous pouvons improviser au sein des programmes. Donc ces programmes, ils existent. Je vous parle maintenant à travers la langue française. La langue française, c'est quelque chose que personne n'a écrit un jour ou l'autre, mais qu'on peut trouver écrite dans des dictionnaires, dans le bon usage, dans des traités de grammaire, etc. Donc, je ne fais, la façon dont je m'exprime maintenant est programmée par ce code qu'est la langue française. En même temps, je me suis programmé moi-même, j'ai préparé un PowerPoint, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais vous dire. Donc, et la langue française et moi-même, nous nous sommes programmés à dire ce que je dis maintenant. Et en même temps, il y a une petite marge d'improvisation, ce qui fait que je ne suis pas en train de lire un papier. Les phrases que je fais, je les improvise minimalement devant vous. Et donc, ce deuxième point, ce deuxième postulat que je vous propose, c'est de dire, on peut distinguer parmi tous les programmes possibles, et c'est ce que je vais essayer de creuser un petit peu avec vous dans les 50 minutes qui restent, on peut distinguer deux types de programmes. Un premier type de programme qui, en gros, nous empêche d'improviser ou rend notre improvisation insignifiante. Et puis un deuxième type de programme qui, au contraire, nous permet, nous autorise, nous incite, nous invite, nous stimule à improviser et donc à solliciter cet excès qu'est le geste sur la programmation. Rapidement, toujours dans cette présentation entre gestes et programmes, programmation, je vous propose trois grands cadrages historiques, vraiment à la louche. J'aime bien les cadrages qui sont toujours des choses grossières parce qu'on regarde les choses de très loin et en même temps, il me semble que ça peut aider un petit peu. On pourrait dire qu'est-ce qui s'est passé massivement dans nos pays européens développés, riches, appelez-les comme vous voulez, colonisateurs, au 19e siècle. L'industrialisation, ça a consisté en quoi? Ça a consisté massivement à ce qui était des gestes d'artisans ont été pris en charge par des machines. Il y avait toujours des humains qui travaillaient avec les machines, mais leurs gestes se sont fait simplifier, se sont fait atrophier. Au lieu de produire des chaises ou des tables ou des assiettes en maniant l'argile, en maniant le bois, en sculptant le bois, des machines on fait le gros du travail et des humains étaient un petit peu asservis à la machine. Donc 19e siècle, industrialisation, automatisation, programmation de nos gestes corporels. Première dimension de ce que je vous disais tout à l'heure sur le geste. Deuxième dimension, rappelez-vous le côté esthétique où un geste est fait pour être vu. Le 20e siècle, qu'est-ce qui caractériserait très globalement et vu de la planète Mars le 20e siècle? Ça serait la masse médiatisation. Depuis le cinéma, la radio, la télévision, ensuite Internet, nos gestes sont devenus visibles. Auparavant, il fallait voir quelqu'un danser pour savoir ce que c'était que ce danseur. À partir du cinéma, on peut enregistrer des gestes, on peut enregistrer des mouvements et en avoir une reproduction ultérieure ou une diffusion ultérieure à très large échelle. Donc, 19e siècle, industrialisation, automatisation de nos gestes. 20e siècle, masse médiatisation, possibilité de diffusion de nos gestes. Qu'est-ce qui pourrait caractériser le 21e siècle qui commence ? Je propose d'appeler ça informatisation, qui, de mon point de vue, pourrait se caractériser comme une automatisation ou programmation, non plus tant de nos gestes corporels, comme ça a pu se faire avec l'industrialisation, que de nos gestes mentaux ou relationnels. Pensez à ce que c'est qu'une formation d'un télémarketeur, c'est quelqu'un qui est censé nous parler, qui est censé nous donner l'impression qu'il nous parle véridiquement, et en fait tout son discours est programmé pour remplir un certain nombre de fonctions. Une machine à calculer, c'est une informatisation, une automatisation de quelque chose, de gestes mentaux que nous faisions, les additions, les soustractions, les extractions de racines carrées, etc., etc. Dans cette évolution historique, il me semble qu'on peut voir trois tendances préoccupantes et en même temps trois tendances peut-être encourageantes ou qui permettent l'espoir. L'industrialisation, comme je le disais, ça correspond, ou ça peut correspondre à une atrophie des gestes de l'artisanat. Et moi, je le vis un petit peu quotidiennement. L'artisanat qui consiste à pouvoir écrire à la main devient de plus en plus difficile pour moi. Je suis né encore dans une génération où on écrivait à l'école, j'écrivais tout avec un crayon, une plume et du papier. De plus en plus, les gestes que je fais, c'est sur un clavier. Et donc, j'ai de plus en plus de mal, soit à écrire quelque chose de lisible, que je puisse relire moi-même, soit même à ne pas avoir de douleur les rares fois où je dois écrire de façon un petit peu continue. Donc, il y a un geste, qui est un geste ancestral, qui est celui de l'écriture, qui, en une ou deux générations, est en train de s'atrophier, de se fragiliser. Donc ça peut nous préoccuper. La masse médiatisation, elle peut aller avec une homogénéisation, une standardisation de nos gestes, relationnels, corporels ou autres. À partir du moment où toute la planète regarde les mêmes images, baigne dans un bain de mêmes images diffusées sur toute la planète, on peut se dire, on va tous bouger un petit peu de la même façon, et ça peut légitimement nous préoccuper. Quant à l'informatisation globalisée, elle pourrait entraîner de nouveau une atrophie ou une standardisation de nos gestes mentaux, comme je le disais tout à l'heure. On dit souvent les jeunes ont des machines à calculer, ils n'arrivent plus à faire des calculs mentaux. Moi, j'ai envie de souligner en même temps trois développements ou trois tendances qui sont peut-être l'envers ou qui sont en tout cas associées à ces développements, qui sont plutôt cause d'espoir, me semble-t-il. L'industrialisation, malgré tous ses méfaits, a quand même permis de produire des choses de façon, de rendre disponible une série d'outils, d'instruments, qui n'aurait pas été possible sans cela, et donc de nous libérer largement de certaines tâches mécaniques. De même, le développement des mass médias a généralisé, pour le meilleur et pour le pire, mais a quand même généralisé toute une série d'expériences esthétiques. De nouveau, on peut voir du théâtre, on peut voir des danseurs, on peut écouter des orchestres, même si on n'habite pas au cœur de Montpellier ou à Marseille, grâce à la diffusion de films, d'enregistrements, etc. Troisième grande tendance sur cette modernité que j'essaye d'envisager de façon très très lointaine et très globale, une extension, une planétarisation et une intensification de nos interdépendances. Sur ces trois siècles, en conséquence peut-être, ou en tout cas associé à tout ce qu'on a vu, chacun de nos gestes est vu de façon très large et a des conséquences, ou en tout cas on imagine qu'il peut avoir des conséquences, très lointain. À partir de ça, je vous propose trois thèses qui vont diriger la suite de ce que je vous propose. D'abord, nos humanités se nourrissent de leur multiplicité gestuelle. Là, j'emploie le mot humanité de façon un petit peu ambivalente, vous allez le voir. D'habitude, on dit l'humanité pour dire tous les humains. Je suis un admirateur, un disciple de l'écrivain que vous connaissez peut-être, s'appelle Édouard Glissant, qui parlait d'humanité au pluriel. Parce que la façon dont on conjugue... Baissez la musique. Merci, c'est très gentil de faire le geste pour me dire que la musique est un petit peu trop forte. Si on peut dire à nos camarades du son, que je remercie par ailleurs, de baisser un petit peu le niveau de la musique. Merci beaucoup. C'est très sympathique d'être intervenu. Je compte sur vous pour me dire s'il faut baisser plus ou si ça marche, d'accord ? Ok, merci bien. Édouard Glissant nous propose de ne plus parler de l'humanité en disant « nous sommes tous humains », ce qui n'est pas idiot, nous partageons tous quelque chose en tant qu'humains, mais il souligne au contraire la diversité des cultures humaines et en disant que nous ne serions pas humains s'il n'y avait pas une multiplicité de cultures différentes entre elles qui ont à la fois des différences, nécessairement aussi des tensions, mais que ces tensions sont productives et sont nécessaires. Donc, premièrement, nos humanités se nourrissent de leur multiplicité gestuelle. Deuxième point, le destin des hommes et des femmes sur la planète, de nos humanités, est lié à notre capacité à cultiver ce que je vous propose d'appeler des espaces d'instauration gestuelle. Tout à l'heure, je parlais d'improvisation, on pourrait parler d'espace d'improvisation, on pourrait parler d'espace de création, si vous voulez. Il y a un mot que j'aime bien, que je reprends d'un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau, que Bruno Latour remet au goût du jour. Bruno Latour va venir ici dans la série, je crois que c'est le dernier de la saison. Ratez le pas, parce que c'est quand même un des grands penseurs vivants actuellement. Et lui a ressuscité ce texte des années 50, je crois, d'Étienne Souriau, qui, au lieu de parler de création artistique, il parle d'instauration. Et je trouve ce mot très très beau. Instaurer quelque chose, c'est faire advenir quelque chose qui n'existait pas. En même temps, la façon dont Souriau décrit l'instauration, ça nous montre que les choses sont déjà là de façon virtuelle et on les pousse un petit peu dans la réalité, pour qu'elles passent dans la réalité. Donc le destin de nos humanités est lié à notre capacité à cultiver des espaces de gestes, des espaces d'instauration gestuelle au sein des programmes qui nous conditionnent. J'y reviendrai plus abondamment. Et troisième thèse que je proposerai dans la toute dernière partie, les humanités constituent un lieu, donc les humanités au sens des disciplines, hein, étudier la littérature comme je peux le faire dans des classes d'université, étudier l'histoire, étudier à mon avis la sociologie, l'anthropologie, tout ceci peut se regrouper dans des disciplines différentes des sciences exactes que seraient les humanités. Ces humanités constituent un lieu privilégié de culture réfléchie, des gestualités qui nous humanisent. Alors, j'avance un petit peu plus vite. Là, il y a quelques citations sur lesquelles on reviendra peut-être. Je veux finir dans la demi-heure qui reste. Donc, ne vous inquiétez pas si je passe peut-être plus vite sur des choses. Je vous avais annoncé une série de tensions, des choses qui ont l'air d'être des contradictions, me semblent plutôt être des polarités qui nous aident à comprendre l'espace dans lequel se déploient nos gestes. Le premier, c'est, on y a déjà un petit peu fait référence, l'opposition entre la feintise, faire semblant, des gestes, ça fait semblant, et l'accomplissement. Si je fais ceci, je ne fais pas la révolution. Je suis un conférencier ou un histrion qui fait le geste de dresser le poing. Mais il ne suffit pas de faire ceci pour faire la révolution. D'accord ? Donc on sent bien cette différence. Il fait semblant. En plus, je le fais même pas dans la rue, je le fais comme une sorte d'acteur sur une scène. Donc ici, ce geste-là, c'est quelqu'un qui illustre un geste en faisant un geste. Donc là, on voit bien qu'on est dans la feintise, on n'est pas du tout dans la réalité. Donc je pars de cette opposition feintise-réalité et j'ai envie de la mettre en question. Les images que vous voyez là-dessous du printemps arabe, c'est des gens qui font des gestes. Sauf qu'ils font ces gestes-là dans la rue, qu'il y a des appareils photos, des caméras qui diffusent ces gestes à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Et est-ce que ce sont des actes ou est-ce que ce sont des gestes, ce que vous voyez là ? Moi, je ne sais pas. Deuxième tension, style et substance. Souvent, lorsqu'on parle de gestes, justement, on se dit que c'est de l'ordre du style. On peut faire une chose avec tel ou tel geste, avec plus ou moins de grâce, et que ça serait différent de la substance. De même que le mot de performance, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais entre la feintise et l'accomplissement, il me semble qu'il y a cette notion de performance, une performance à la fois au sens sportif, quand Usain Bolt fait le 100 mètres en 9 secondes et 58, quelque chose comme ça, je crois. C'est du spectacle. Il fait ça dans un stade avec des millions de personnes qui le regardent, donc c'est une sorte de feintise. En même temps, il le fait. de courir très vite. Donc c'est à la fois un geste, à la fois un, et la notion de performance, il me semble qu'elle rend bien compte de ceci. Donc ici, entre style et substance, il me semble que c'est la notion de nuance qui est intéressante. Et prêter attention au geste, c'est de se dire que les nuances ne sont pas quelque chose de secondaire, ne sont pas quelque chose qui vient en plus, comme une sorte de style, d'esthétisation qu'on mettrait après coup, mais qu'au contraire, tout est dans la nuance. Que la valeur, la signification, le mérite d'un geste, c'est, tient justement dans les petites nuances qu'il présente. Et là, j'essaye de rattacher ça à ce que je vous proposais tout à l'heure. Rappelez-vous, le geste, je le définissais comme ce qui excède la programmation. La programmation, ça nous donne justement des cadres dans lesquels les choses seront considérées comme identiques. Et les nuances, c'est à l'intérieur de ces cadres des choses qu'on peut faire. Je parle la langue française. Dans la langue française, il y a certaines choses qu'il ne faut pas confondre. Si je confonds A et I, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. En revanche, la façon dont je prononce les S, je pourrais prononcer les F de cette façon et vous comprendriez quand même ce que je dirais. Donc là, c'est une question de style, c'est une question apparemment justement superficielle et un geste de la bouche que je fais qui ne serait pas signifiant. Prêter attention au geste, c'est se dire que ces nuances sont essentielles. Et là, je faisais référence à Roland Barthes qui en a beaucoup parlé. Je passe sur le suivant pour avancer un petit peu plus vite. Autre tension, est-ce que les gestes sont des lieux où j'exprime, où je démontre la maîtrise que j'ai de mon corps, ou dans quelle mesure les gestes sont des occasions d'aliénation. Question, dans quelle mesure est-ce que mes gestes sont les miens? Et là, de nouveau, je vous propose de prêter attention à Derek Bailey. Ce que vous entendez, il est le seul. Moi, je peux reconnaître du Derek Bailey assez facilement. J'imagine que vous aussi, peut-être après une heure de Derek Bailey. C'est très original. Bon. En même temps, on peut imaginer que maintenant que vous avez entendu ça, vous bricoliez sur votre guitare et que vous sortiez des choses qui ressemblent peut-être à ça. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il fait, pas sur ce morceau-là, mais sur un morceau antérieur, c'est pas vraiment lui qui le fait. C'est son corps, contre sa volonté, qui résiste à ce qu'il voulait faire parce qu'il a une opération du tunnel carpien. Et même... Donc Derek Bailey, ça serait une sorte d'exemple alors à la fois d'originalité mais de non-maîtrise, parce que justement il se place dans une improvisation qui n'essaye pas de programmer à l'avance ce qu'il va faire, ou qui joue sur des larcènes comme maintenant, qui contrôle plus ou moins. Et en même temps, il développe une virtuosité qui, je dirais, neutralise cette opposition entre est-ce que je contrôle ou est-ce que je ne contrôle pas. Et c'est au-delà du contrôle, je vous disais, le geste, c'est ce qui excède la programmation, c'est ce qui excède le contrôle. Là, je vous propose une citation de Pierre-Damien Huyghe qui nous dit « Sans doute n'y a-t-il pas de geste dont on puisse régler et reproduire la réussite ?» De geste artistique, il entend. Dès que cette reproduction, dès qu'on peut reproduire un geste de façon sûre, automatique, etc., dès qu'elle est possible, il y a précisément autre chose, programmation, automatisme, savoir-faire, et nous entrons dans une économie de la production, nous ne sommes plus devant un fait artistique. Autre façon de reprendre cette problématique, en quoi est-ce que le geste est quelque chose qui exprime ma singularité ? En tant que musicien, en tant qu'artiste, mais vous aussi, en tant que vous parlez, que comme moi, plus ou moins, vous gesticulez en parlant, que lorsque vous parlez, vous avez un style, vous avez un accent, vous avez une façon de prononcer, d'utiliser votre bouche pour exprimer quelque chose dans la langue française. En quoi est-ce que ces gestes qui nous singularisent, en même temps, ils nous dépossèdent de nous-mêmes ? Et cette question-là, je l'illustre à partir de ce que faisait Henri Michaux, que vous connaissez peut-être, le poète du XXe siècle, Henri Michaux, qui s'est passionné pour des traçages. Ce que vous voyez à gauche, ce sont des traçages à l'encre de Chine. Donc il avait de l'encre de Chine, un pinceau, et il faisait ces traçages, ces signes, ces mouvements. Il nous dit qu'il en faisait des dizaines, voire des centaines par jour. Donc c'est pas des idéogrammes chinois, c'est des dessins, des traçages de gestes d'Henri Michaux. Et j'aime beaucoup la façon dont il décrit ce qui se passait lorsqu'il faisait ses gestes, qui produisaient ses traces. Et il me semble que ça va s'appliquer aussi très bien, par exemple, à Derek Bailey, ou, j'ai envie de vous dire, à tout ce qui a la puissance et la force d'un geste. Donc il nous dit « Progressivement, les formes en mouvement éliminèrent les formes pensées. Il ne s'agit plus de se dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est le corps, c'est le mouvement qui se fait tout seul. Éliminèrent les caractères de composition. Pourquoi ? Elle me plaisait plus à faire. Leur mouvement, le mouvement de ces formes, leur mouvement devenait mon mouvement. Plus il y en avait, plus j'existais. Plus j'en voulais. Les faisant, je devenais tout autre. Et là, à mon avis, c'est le programme même de ce que c'est que faire un geste au sens fort. C'est un mouvement qui me traverse. C'est quelque chose que je ne contrôle pas, de même qu'une improvisation. Une improvisation, je sais ce que je fais, je dialogue avec quelqu'un, mais il y a plus que moi qui parle dans mon improvisation. On peut appeler ça inspiration, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Hein. C'est quelque chose qui passe à travers moi. C'est leur mouvement. Et ça se passe bien lorsque ça peut devenir mon mouvement. J'existe en tant que je deviens autre de ce que j'étais. Je devenais tout autre. J'envahissais mon corps, mes centres d'action, de détente. J'étais possédé de mouvement, nous dit Michaud. Et il me semble que là, en nous disant j'étais possédé de mouvement et je devenais autre et j'existais, ça nous dit bien qu'on devient singulier. On devient soi-même, on construit son identité à travers des gestes qu'on subit, qu'on ne contrôle pas. Là, je vais passer parce que on veut avancer un petit peu plus vite. Et je vous donne finalement cette citation de Giorgio Agamben, le philosophe italien, qui résume un petit peu ce qu'on a vu se mettre en place dans le rapport ici entre art et vie, entre esthétique et réalité, si on veut. Geste est le nom de cette croisée où se rencontrent la vie et l'art. L'acte et la puissance, le général et le particulier, le texte, le programme, et l'exécution, l'improvisation. Le geste est un fragment de vie soustrait au contexte de la biographie individuelle. Ce que vous entendez de Derek Bailey, c'est un fragment de sa vie. Il s'est fait opérer du tunnel carpien et il a pris sa guitare 2 semaines après, 4 semaines après, 10 semaines après, etc. C'est un fragment de vie, mais qui vaut indépendamment de la vie de Monsieur Bailey, en tout cas qui prétend. C'est un fragment de vie soustrait au contexte de la biographie individuelle et c'est en même temps un fragment d'art soustrait au contexte de la neutralité esthétique. Ce n'est pas simplement une belle forme, ce n'est pas quelque chose de classique qui s'impose à nous. Ça garde la fragilité, ça garde la singularité d'un effort, de quelque chose qui est en train de se faire, comme on voyait dans les traçages d'Henri Michaud. Dernière proposition sur la notion de geste en général, là je reprends ça d'un anthropologue qui s'appelle Alfred Gell, qui nous propose de considérer les œuvres d'art comme des sortes de cristallisation, si on veut, de gestes, comme des apparences qui se détachent de nous et qui gagnent une forme d'action, une force d'action, une puissance d'agir, une agency, on dit en anglais, une agentivité propre. Donc c'est une apparence, mais c'est une apparence qui agit dans le réel. Alors ensuite, je vous montre quelques exemples. Ça résume ce qu'on voit. Quelque chose qui ne serait justement pas un geste ou irait aussi loin que possible dans la négation de ce geste. Je vous parlais de programmes qui nous asservissent, de programmes qui ne nous permettent pas de gester, de faire des gestes. L'expérience que vous avez peut-être tous d'aller prendre de l'argent sur un distributeur de billets, vous faites quelque chose. Vous utilisez votre doigt pour presser des boutons. Vous communiquez en quelque sorte, au lieu de communiquer avec un caissier ou une caissière, vous communiquez avec une machine. Mais tout ceci est pré-paramétré, pré-programmé par la machine, un logiciel, un programmateur, etc. Et donc c'est le cas, il me semble extrême, d'une gestualité humaine qui est pré-programmée, pré-paramétrée par des programmes, sans marge significative d'inventivité gestuelle. Vous pouvez faire une petite génuflexion avant de prendre votre argent, personne ne vous empêche de le faire, peut-être que certains d'entre vous le font, on vient d'élire un pape, donc pourquoi pas se mettre à faire des génuflexions devant les machines de distributeurs de billets, mais ça ne va pas vraiment changer la communication, la machine va répondre exactement de la même façon. Donc, on peut toujours, et peut-être que le style, c'est justement ça, on peut se singulariser en faisant qui des génuflexions, qui lever le poing, chaque fois qu'on prend de l'argent, pourquoi pas. Et peut-être que c'est intéressant d'investir ce type de geste dans les programmes, peut-être que ça pourrait produire des effets. Le fait est que les machines sont programmées pour que justement ça n'ait aucun effet. Hein, si vous n'avez rien sur votre compte en banque, ce n'est pas ni ça ni la génuflexion qui va vous faire cracher des billets. Autre forme comparable de ce qu'on peut appeler des asservissements machiniques, tous les formulaires. Les formulaires en ligne ou pas en ligne, ceux que vous devez remplir dans des procédures bureaucratiques ou ceux que vous trouvez sur Internet, ou lorsque vous avez un problème avec votre téléphone ou votre Internet, où il faut presser la touche étoile, etc. Tout ça, justement, c'est préprogrammé pour que votre improvisation n'ait pas de place, ne puisse pas ouvrir une catégorie nouvelle. On est dans des espaces pré-paramétrés, de même que dans ce que moi et certains de mes collègues faisons dans nos salles de classe, où des fois nous donnons ces choses quand même bizarres, que sont des questionnaires à choix multiples. Hein, c'est une négation absolue de la subjectivité ou de la capacité gestuelle, en tout cas, des étudiants. Alors, quelques images de gestes. J'aime beaucoup celle-ci du Caravage, que vous connaissez bien à Montpellier. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas, bon, on coupe la tête de quelqu'un et quelqu'un qui a coupé la tête de quelqu'un, là pour le coup c'est bien un acte, le met sur la table. C'est plutôt ce que fait Salomé, hein, son détournement de regard. Là on voit bien qu'elle ne fait pas ça pour signifier, hein, c'est pas un geste en ce sens qu'elle veut montrer quelque chose. Caravage, oui, mais pas forcément Salomé. C'est un geste qui lui échappe peut-être, hein, c'est un geste qui l'a trahi. Hein. On voit dans ce geste le dégoût, la honte, le problème relationnel qu'elle peut avoir avec ce qui s'est passé dans les minutes précédentes. Bon, on pourrait mettre aussi Sina. Autre geste, hein, une fessée. Est-ce qu'une fessée est un acte ? En ce sens que ça fait mal, ça impose de la douleur, et on dit qu'il ne faut pas donner de fessée, parce que c'est justement un acte physique, c'est un châtiment corporel qui ne nous plaît pas. Dans quelle mesure est-ce que c'est aussi un geste ? Dans quelle mesure est-ce que nous voulons choisir des gestes qui, justement, soient purifiés d'une dimension d'acte lorsque nous avons des relations avec nos enfants ? C'est autre chose. Tout ce que je vous montre ici, c'est justement des questionnements sur les limites du geste et le fait que ça soit toujours entre les polarités que je vous proposais tout à l'heure. Là, je reprends une image de manifestation de rue. De nouveau, ce sont des actes. Hein. Si la matraque du policier frappe la tête du jeune homme, son cerveau risque d'être endommagé et c'est pas un geste, c'est pas du spectacle, c'est pas du théâtre, c'est pas, hein, c'est, on fait pas semblant. Son cerveau sera effectivement endommagé. En même temps, on peut très bien se dire que tout ça, ce sont des gestes. Le policier, la matraque du policier, c'est fait pour être diffusé, alors à travers différents types de médias, pour faire peur, pour empêcher aux gens de sortir dans la rue, de lancer les choses ou de dresser le poing. De même, ce que fait le jeune homme, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Alors, je ne sais pas, on pourra en discuter, peut-être que Pascal sera, j'espère qu'il ne sera pas d'accord avec moi, peut-être, mais qui a au moins autant de valeur dans la mesure où c'est médiatisé, où c'est diffusé en tant que geste, que l'acte qui a pu avoir lieu dans une rue de Tunis ou d'ailleurs. Est-ce que ceci, c'est un geste ou un acte politique ? Est-ce que ce qui se passe maintenant au Mali, ce sont des actes, hein, ce sont des bombes qui détruisent des villages, qui tuent des gens ? Est-ce que ce sont des actes qu'on peut penser autrement que des gestes ? Est-ce qu'une des forces terrifiantes de ceux qu'on appelle des terroristes, et moi j'essaye de ne pas employer ce mot, est-ce qu'une de leurs forces terrifiantes, c'est justement pas qu'eux ont une conscience très vive du fait que ce sont des gestes qui comptent dans les politiques, les géopolitiques globalisées et mass médiatisées d'aujourd'hui. Alors, je évolue vers la troisième partie et la fin de ma présentation en essayant de se demander ce que nous pouvons faire en termes de savoir avec et sur des gestes. Et là, je vais un petit peu plus vite en laissant de côté les gestes corporels. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est pas les gestes en tant que nos corps les font. Les gestes sont toujours corporels, ne serait-ce que des choses qui se passent peut-être dans le cerveau. Mais je vais plutôt m'intéresser à des gestes mentaux. Les gestes mentaux, ce seraient plutôt des mouvements émotionnels, affectifs, Et relationnel, à savoir entre une subjectivité et d'autres subjectivités. Et là, on imagine bien dans ce que je vous montrais tout à l'heure, par exemple, que ce geste-là, bah oui, c'est mon corps. On peut calculer des nerfs, le sang, etc., des choses qui se passent dans ma main. Et en même temps, c'est quelque chose qui exprime mes affects, mes émotions et ma relation à autrui, à un pouvoir politique, à des camarades, à quelque chose qui m'indigne dans la réalité sociale ou autre. Et c'est en tant que nos gestes physiques ont cette composante relationnelle affective que je vais m'y intéresser maintenant et que, me semble-t-il, nos expériences esthétiques, ce qui se passe lorsque nous allons au cinéma, lorsque nous lisons un roman ou lorsque nous écoutons de la musique, ça se passe, ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, ça se passe du côté de ces gestes relationnels. Alors là, je vais laisser tomber de nouveau, on y reviendra si vous voulez. Dans les espèces de cadrages à long terme dont je vous parlais tout à l'heure, il me semble qu'on pourrait se dire... Qu'est-ce que ça a été que les romans depuis 1700? Qu'est-ce que ça a été que le cinéma depuis 1910? Qu'est-ce que ça a été que les séries télévisées depuis 1950, 60, 70, etc.? Ça a été des instruments, des appareils, des machines, des institutions d'inculcation de gestes relationnels. Vous savez, d'ailleurs, c'est bien avant la période moderne. C'était le camarade qui a écrit les Maximes de La Rochefoucauld qui nous dit que nous ne serions pas amoureux si nous n'avions pas lu des romans d'amour. Cette citation-là, qui vient avant la période qui m'intéresse, il me semble qu'elle rend compte de ce que nous font quotidiennement les films ou les séries télévisées que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe? À la fois, ça nous permet d'analyser nos gestes relationnels, analyser, là je pense à des auteurs comme Marivaux, Prévost ou Stendhal, on les a accusés d'anatomiser notre cœur, de même que des médecins pouvaient anatomiser nos corps, d'aller au scalpel pour voir qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux à tel âge, de telle personne, avec quelle distinction sociale, etc. etc. Donc, nous baignons, lorsque nous regardons un film ou lisons un roman, nous baignons dans un monde de gestes et ça nous permet d'abord d'analyser ces gestes. Ensuite, ces romans, ces films, ça permet de diffuser certains types de gestes. Là, je pense à Rousseau ou à Goethe, hein, le suicide de Werther, même si c'est un petit peu fantasmatique. On imagine que des gens lisent un roman et soient dégoûtés de leur vie, mais à grande échelle, des centaines de lecteurs. Et faisant ceci, ces gestes relationnels que nous voyons mis en scène dans des fictions, dans des narrations, dans lesquelles nous sommes immergés lorsque nous lisons ou voyons ces fictions ou ces narrations, ça forme nos subjectivités. De nouveau, je suis assez profondément persuadé que nous pensons la politique, nous vivons l'amour, ou nous vivons la politique et nous pensons l'amour de façon directement sculptée par ce qu'a pu écrire Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Beaucoup d'autres aussi, mais en particulier Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est dans la mesure où nous nous sommes plongés dans les fictions, mais aussi bien les textes, toujours affectifs de quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, que nous sentons et donc que nous agissons, que nous gestons de la façon dont nous le faisons aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, je vous proposerai une distinction entre... Et c'est de nouveau une polarité, donc j'essaie à la fois de distinguer les choses et de vous dire que c'est dans le continuum entre ces deux choses qu'il se passe des phénomènes intéressants, une distinction entre d'un côté ce qui relèverait de la lecture, de l'autre côté ce qui relèverait de l'interprétation. La lecture, le modèle le plus extrême de la lecture, ça serait le barcode. Vous passez à la caisse et il y a une machine qui lit, qui sort toutes les informations, en général de façon fidèle, en une fraction de seconde de ce qu'est ce produit. Lorsque je lis le journal, lorsque je lis ma messagerie électronique, j'essaye de fonctionner au barcode, de ne rien rater d'important et d'aller aussi vite que possible parce que j'ai mieux à faire que lire ma messagerie électronique où il y a plein d'annonces qui ne m'intéressent pas. Donc ce pôle de la lecture, on le pratique tous lorsqu'il faut essayer de collecter des informations aussi vite que possible parce qu'on a envie de faire autre chose. Et puis il y a un autre pôle qui serait le pôle qui correspond plus à l'activité d'interprétation, dont l'exemple paradigmatique, ça serait peut-être l'explication de texte, où dans une salle de littérature où on n'a rien d'autre à faire, on passe 2 heures sur un verset ou sur un sonnet. Donc là, on va non seulement le lire, essayer d'en prendre connaissance, mais on va essayer d'y trouver plus que ce qu'on y voyait à la lecture. On va faire tout le travail, justement, d'interprétation, d'exégèse, de rêvasserie un petit peu aussi sur ce à quoi nous fait penser ce texte, de retour au texte. Bref, le travail d'interprétation. Alors, pourquoi je vous dis ça ici? Je vous ai dit tout à l'heure, voir des films, des séries télévisées, des jeux vidéo, lire des romans, c'est s'immerger dans des fictions et c'est en quelque sorte faire les gestes par contumace ou par vicariance. Hein, c'est faire les gestes que font les protagonistes ou les narrateurs. Lorsque James Bond va se faire tuer, j'ai peur pour lui. Lorsqu'il embrasse une jolie femme, j'aimerais bien être à sa place. Hein, donc, voir un film, il y a ce côté, ou lire un roman, il y a ce côté d'immersion. En même temps, il y a toujours une dimension interprétative. On a toujours un pied dans la fiction et on garde un pied dehors. On sait qu'on est au cinéma, on sait qu'on est en train de lire un roman, on sait qu'on est même dans un jeu vidéo où tout l'espace sensoriel serait mobilisé. On sait que ce n'est pas la réalité. Et donc, à la fois, on expérimente ces gestes avec les effets d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure, en tant qu'on y est immergé, et en même temps, on a un recul critique qui nous permet justement de les analyser, de les interpréter. Dans ce sens-là, je dirais que les humanités, ce qu'on fait lorsqu'on lit des textes poétiques en explication de texte, mais ce qu'on fait aussi lorsqu'on est anthropologue et qu'on étudie des pratiques, ce qu'on fait lorsqu'on est historien, etc., ce seraient des pratiques réfléchies de l'interprétation. Pratique, réfléchie, on interprète et on se demande comment interpréter, quelles seraient les bonnes façons d'interpréter. Et donc l'expérience esthétique, en tant, hein, roman, film, etc., en tant qu'elle a à la fois un pied dans la fiction, dans la narration, et un pied dehors, c'est déjà, sans même qu'on ait besoin d'avoir des cours ou autre chose, c'est déjà un début de réflexion sur, de pratique réfléchie de l'interprétation. Ça, je vais le laisser de côté parce que j'ai envie d'avancer un petit peu. Donc, en récapitulant ce que j'ai essayé de vous présenter depuis le début sur cette page. Donc, d'un côté, on a les barcodes, une sorte de lecture qui pourrait être automatisée, pourquoi pas. Les programmes qui préparamètrent les gestes pertinents qu'on va pouvoir faire envers eux. Et puis, des actes, mais des actes qui valent en tant que gestes et dont on ne pense pas assez la valeur, je dirais, de diffusion en tant qu'image et en tant que geste. De l'autre côté, on aurait Cecil Taylor ou ce que vous entendez de Derek Bailey, des espaces qui ne nient pas du tout la programmation, qui eux-mêmes ont été programmés, mais qui ouvrent à l'intérieur de ces espaces de programmation des lieux d'improvisation, des lieux d'excès, hein, des lieux où cet excès qu'est le geste peut se déployer. Interprétation de texte ou jeu de musicien. Si j'essaye de vous représenter ce qui se passe sur une scène entre différents musiciens, comme ici Henry Threadgill, vous avez toute une série de choses que j'ai essayé de distinguer et qui font partie de ce qui se passe sur cette scène de musiciens, mais dont j'ai envie de vous inviter à penser qu'elles font partie de la discussion qu'on aura tout à l'heure, de ce que vous faites lorsque vous conduisez une voiture, de tout. Hein. Toute notre vie est faite d'interactions qui ont ces différents aspects. Alors, des programmes, des machines, hein, j'ai essayé de les représenter avec un triangle jaune, et ben, il y a une composition, Monsieur Threadgill, il écrit quand même des compositions, donc il y a quelque chose, un thème, quelque chose qui est composé, qui est là. Il y a des machines et des programmes aussi dans tout l'appareillage qui est lui-même programmé avec du numérique, des logiciels pour faire circuler le son entre les différents musiciens, donc c'est pas du tout que la musique, la créativité, ça serait contre les programmes. Il y a des structures, hein, des structures. Dans ce groupe-là, vous avez un tuba et un batteur, comme souvent une basse et une contrebasse et une batterie, qui ont tendance à jouer un petit peu ensemble, à rester plus proches l'un de l'autre. Vous avez des interprétations relationnelles, les musiciens qui s'écoutent les uns les autres. Là, ce que je vous passe, c'est un instrumentiste en solo. Dans la plupart des musiques qu'on écoute, vous avez plusieurs musiciens qui passent leur temps à s'interpréter les uns les autres, non seulement au sens où ils interprètent une composition du compositeur ici Threadgill, mais où ils répondent, ils interagissent avec ce que fait l'autre musicien au même moment.
et vous avez des gestes corporels qui sont simplement la maîtrise de l'instrument et le dépassement de cette maîtrise auquel chaque instrumentiste s'expose dans certains contextes musicaux, voire peut-être dans tous. Alors, les humanités dont je vous parlais tout à l'heure, il me semble qu'on peut, sciences humaines et sociales ici, pourquoi je préfère le terme d'humanité au terme de sciences sociales ou de sciences humaines, la notion même de science me semble problématique. Et je vais essayer de vous faire sentir pourquoi à travers ce petit cliché. Dans les humanités, il y a clairement un intérêt, une sensibilité, un besoin de connaissance qui porte sur des structures, hein, des programmes. Il faut savoir comment fonctionne la langue française, il faut savoir comment fonctionnent les systèmes de production dans une société. Et ça, c'est des choses qui sont de l'ordre structurel, de l'ordre programmé. En même temps, ce qui caractérise les humanités de façon essentielle, il me semble que c'est une attention aux nuances. Justement, à l'intérieur de ces structures, c'est les nuances qui comptent, autant que ce qu'on fait pour la reproduction. Donc les humanités, ça peut être des analyses de programmes, mais aussi bien des études de gestes aussi importantes. Ça peut être des mesures d'effets d'agrégation, mais c'est aussi des interprétations d'œuvres singulières. Ça a besoin de logique calculatrice, mais aussi bien une logique mystique. Je n'ai pas eu le temps de développer ça. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être en parler dans la conversation. Il me semble qu'il y a quelque chose de mystique, je dis ça un petit peu pour provoquer le rationalisme français que je partage aussi un petit peu, dans ce que je vous disais sur le fait que le geste nous traverse. L'expérience d'Henri Michaud, il n'était pas plus mystique que moi, peut-être vous, je ne sais pas, mais je ne crois pas que c'était quelqu'un qui était profondément mystique. En même temps, cette expérience-là de se dire que ces gestes sont produits par son corps en deçà, au-delà de ce que peut être sa conscience, ce geste poétique-là, ce geste de création, d'instauration, en tant que l'instauration nous dépasse, il me semble que ça nous inscrit dans une logique qui pourrait toucher au mysticisme. Et donc, dans cette dimension-là, le geste a aussi une fonction d'initiation, une fonction anthropologique d'initiation, que peuvent étudier les humanités ou les sciences humaines et sociales, et non seulement un travail sur les structures et les comptabilités. Alors, je finis, j'avais dit que je finissais en une heure. Il me reste trois choses à vous proposer. J'ai exprimé ça en termes de droit. Je ne sais pas si la notion de droit est vraiment très appropriée. Peut-être que, bref. Trois valeurs, en tout cas, qu'il me semble important à défendre à l'horizon de ce que j'ai essayé de vous proposer sur la notion de geste. La valeur de l'opacité. Il me semble que notre société a tendance à valoriser la transparence. On met l'opacité du côté de la corruption, du côté des magouilles, du côté des choses qui se cachent parce que si on les dévoilait, si on les rendait publics, il y aurait quelque chose de honteux. De nouveau, avec Édouard Glissant, il me semble important de défendre un droit à l'opacité. Et c'est Édouard Glissant lui-même qui dit ceci. Le consentement général aux opacités particulières, le consentement général aux opacités particulières est le plus simple équivalent de la non-barbarie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet idéal de transparence, il est très menaçant et qu'il faut savoir se réclamer de l'opacité. Le geste dont je vous parle depuis le début, il y a toujours une zone d'ombre, une part d'opacité, une part, je disais, qui échappe à ma maîtrise, une part qui n'est pas moi dans les gestes que je fais. Je ne contrôle pas les gestes que je fais maintenant en parlant. Ça se fait à travers moi. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est cette part d'opacité, ou dans ce que vous entendez aussi, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas très bien ce que c'est. Cette part d'opacité, elle est centrale dans notre rapport aux gestes. Et exiger une transparence de plus en plus intense menace peut-être ceci. Deuxième droit ou deuxième valeur à défendre, la valeur de l'équivoque, qui est très problématique si on se pose dans un cadre de réflexion sur le savoir, qui est ce que j'essaye de faire maintenant, que ce soit les humanités ou les sciences. En général, l'université, les sciences, les savoirs, c'est fait justement pour résoudre les équivoques, pour essayer de montrer que là où il y a équivoque, on va amener de l'univocité. Là, je fais référence à un anthropologue brésilien qui s'appelle Eduardo Viveiros de Castro, qui nous dit ceci. L'erreur ou l'illusion par excellence, et en particulier l'illusion des anthropologues, consisterait justement à imaginer qu'il y ait un univoque sous chaque équivoque, hein, qu'on puisse, que la science, ça consiste à prendre tout équivoque et à pouvoir la disséquer ou l'analyser ou la résoudre en univoque là-dessous. Et donc, et que l'anthropologie, l'anthropologue, serait le ventriloque de cette unifocisation de l'équivoque. Vous voyez ce que c'est lié à la transparence, hein, univocité et transparence, ça peut aller ensemble, donc opacité et équivoque, de défendre ceci, pour moi, c'est le fondement même de mon travail. Pascal a eu la gentillesse de dire que j'étais d'abord basé dans des études littéraires. S'il n'y avait pas d'équivoque, il n'y aurait pas besoin d'études littéraires. Vous me dites, tant mieux, on économiserait de l'argent en professeurs et on pourrait investir ça ailleurs. En même temps, c'est parce qu'on postule de l'équivoque dans un texte que ce texte devient intéressant, que ce texte mérite une interprétation. Et l'interprétation, c'est justement le résultat de cette postulation d'équivoque. C'est parce qu'on, même si on croyait avoir compris, on se dit, il y a quelque chose, finalement, il y a une nuance qui m'échappe, il y a quelque chose qui reste opaque dans ce texte, il y a quelque chose qui reste équivoque. Et c'est justement en déployant le texte qu'on va mieux comprendre ce dont il s'agissait. Mais pas du tout pour le résoudre à une univocité, pour ne faire que repousser l'équivoque, sans quoi on ne lirait plus Rousseau. Si on continue à lire Rousseau 300 ans après sa naissance, et si on fait toute une série de conférences et de colloques autour de Rousseau, c'est justement parce qu'il reste des réserves d'opacité, des réserves d'équivoque, et une culture se développe en sollicitant ces réserves d'équivoque et d'opacité de ses œuvres accumulées ou de ses gestes présents. Dernier droit que je vous propose, un droit à la reformulation, et de nouveau c'est directement ancré dans la pratique littéraire de l'explication de texte. Qu'est-ce que fait un littéraire, qu'est-ce que fait une explication de texte, qu'est-ce que fait un philosophe finalement dans l'histoire de la philosophie, c'est aussi de reformuler. Les choses ont déjà été formulées, elles ont déjà été dites, et on ne fait que les reformuler. Et de nouveau, on peut dire c'est une question de style, c'est une question de surface, c'est pas des actes, c'est des gestes, etc. Il me semble que ce droit et ce besoin de reformulation, nous en sentons la nécessité chaque fois que justement nous butons sur des formulaires. Chaque fois que nous butons sur des formes qui imposent leurs paramètres sans que nous puissions à l'intérieur de ces formes ou de ces formulaires développer des gestes, développer une interaction qui nous laisse une certaine part de gestes ou d'improvisation, et ben nous sentons la violence de l'univocité, la violence du présupposé de transparence et la violence des formulaires. Je conclus en reprenant les trois thèses à partir desquelles j'avais lancé ma réflexion, et j'espère que maintenant elles sont un petit peu incarnées dans des choses plus concrètes. Les humanités, je vous proposais de dire qu'elles constituent un lieu privilégié de culture réfléchie des gestualités qui nous humanisent. De nouveau, voir des films, réfléchir ensemble aux films qu'on voit, ou aux séries télévisées, ou aux jeux vidéo, ou aux textes littéraires, c'est une façon de nourrir, de cultiver et de réfléchir sur ces gestes qui nous rendent humains, dans la mesure où nous sommes humains par nos gestes. Deuxième thèse que je vous proposais, nos humanités se nourrissent de leur multiplicité gestuelle. C'est en tant qu'il y a des musiciens qui inventent des gestes différents, des cinéastes qui réfléchissent à l'amour, à la politique et qui en font des images de gestes différents. C'est cette différence, cette multiplicité qui enrichit et qui nourrit nos humanités. Et finalement, le destin de nos humanités est lié à notre capacité à cultiver des espaces d'instauration gestuelle, donc au sein des programmes qui nous conditionnent, à savoir de se battre contre les formulaires et les programmes qui restreignent excessivement, voire qui nient nos capacités d'excès gestuel. Voilà, je pense m'arrêter ici, comme ça on ne dépasse pas trop le temps et on peut avoir des réflexions de votre part. Merci beaucoup pour votre attention et votre patience.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.